Le patriarcat est une narration et elle a fait son temps.
Aujourd'hui, nous vivons encore les conséquences de l'esclavagisme et du colonialisme.
Sous la chape du silence,
nos cœurs vibrent et hurlent.
La vie palpite.
De l'air.
Pour faire notre chemin dans ce monde, nous avons besoin de force et de nuances.
Nous voulons partager ce qui nous tient.
Nous bouge.
Nous bouleverse. Nous traverse.
Nous voulons prendre le temps de déployer nos audaces.
Pour se délecter ensemble
des singularités.
C'est pas du courage, c'est qu'à un moment donné, il faut y aller, quoi.
Et la poésie, ça casse les frontières. Et c'est cet espace pour l'imagination qui m'a permis d'accumuler de la force et de livrer mes batailles.
L'éclat des noctules, une émission féministe, radicale, tendre, joyeuse.
Sur Roi du Royan, 93 FM.
Bonjour à tous.
Bonjour.
Bonjour.
Bienvenue dans l'éclat des noctules. On est en janvier. Vous allez écouter l'émission en février. Et on enregistre avec Gaëlle et Jo, une stagiaire à la technique.
Ouais, big up!
On fait cette nouvelle émission avec Audrey que vous allez sûrement réentendre dans des prochaines émissions. Bienvenue!
Merci.
Et on est encore bien au cœur de l'hiver, même si certaines et certains diront que c'est déjà l'intersaison qui a commencé et que le printemps est tout près. C'est selon ce qu'on utilise comme calendrier et quelles lunettes. On a sur le nez pour regarder ce qui est en mouvement permanent. Alors aujourd'hui, on est chaud bouillant, on va souffler sur les braises et se réchauffer encore. To be on fire, être en feu en québécois, qui a été réhabilité par Soprano. Vous voyez ce son, je sais pas, c'est je suis en feu. Vous voyez ce son de Soprano?
Ouais.
Je sens que je vais briller, ce soir je marche sur l'eau, j'ai l'impression de planer, regarder d'un hublot. Si tu me croises, fais un vœu. Ouais, ouais. Ou comme les trois petits à 6h du mat sur mon lit, je suis en feu. Bref. Désolée pour cette petite écartade. Ça nous a donné bien envie de se raconter des trucs, cette idée d'être en feu ou de feu. Et j'en profite d'ailleurs pour déclarer ma flamme à l'éclat des noctules qui ont cet hiver 5 ans et non pas 3, comme j'ai cru.
Waouh.
Ouais. C'est ça, hein, 5 ans. J'ai recalculé, c'était 2022. 5.
Je dirais peut-être 4, non?
Ben non, j'ai 2022. J'ai compté 2022.
Ouais, mais décembre 2022, non?
Non. Ouais.
Janvier 2020.
Ouais. Ah. Ouais.
Ok, ouais, on n'aura qu'à dire ça.
Ouais. Donc on aurait pu souffler des bougies. Mais bon. Il y a 1000 expressions et usages de l'image du feu parce qu'ils s'entrelacent avec nos vies et nos survies. Donc on ne va pas parler de feu d'artifice, mais un peu de feu follet. On ne va pas parler de pompière finalement, mais un peu de ce que le feu peut faire aux forêts. Et petite rigueur. Voire gros trigger, on va parler aussi d'immolation comme acte politique et aussi de suicide. On va pas parler du crépitement des flammes d'usines d'armement en feu, mais on va écouter un peu les dragons. Ah non, finalement, on va pas non plus écouter les dragons parce que cette émission était trop chargée. Mais par
parce
contre...
Parce qu'on doit faire des émissions de 3 heures maintenant, parce qu'on a trop de contenu.
Mais par contre, tout au long de l'émission, on va écouter des petites capsules sonores qui ont été enregistrées pendant un week-end de danse, avec un dispositif qui s'appelle la danse singulière, que je ne vais pas développer maintenant. Et voilà, j'ai demandé aux personnes avec qui j'étais qu'est-ce qui vous réchauffe dans la vie. Et donc, on va commencer par écouter ça. Voilà. Alors, est-ce que tu as envie de nous dire qu'est-ce qui te réchauffe dans la vie?
Ouais, je veux bien. La poésie, sous toutes ses formes. Quand j'arrive à rentrer dans ma boîte noire, et que même si la vie est rude à ce moment-là, quand je suis dans cette boîte, tout fait sens. Et ça me donne chaud au corps.
Et y a quoi dans cette boîte?
Dans la boîte, y a des filaments de souvenirs et des images du grand monde. Et du coup, ça fait chaud au corps parce que les filaments, en fait, du coup, ils se ramifient et ils s'accrochent au monde. Et le monde reprend sens.
Ah, waouh! Trop bien! Merci beaucoup! Vous avez envie de dire, vous?
ouais, ça, c'est ouais,
c'est... J'avoue.
Ouais, moi j'avais pensé. Moi, ce qui me réchauffe, c'est quand je vais au sauna. En fait, j'aime bien parce que c'est ça, moi, qui m'est venu en premier. Parce que je sais que ça me. Je sais que la chaleur, ça va me détendre. Et je sais pas, il y a comme un truc qui se. De mon corps qui. Il se détend, mes muscles se détendent et mes pensées aussi, du coup. Et il n'y a plus que moi avec moi, même s'il y a d'autres personnes hein, dans le sauna, à vrai dire. Je ne suis pas toute seule, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas. Mais voilà, le sauna, j'avoue que c'est la chaleur, cette chaleur sèche comme ça, ça me. Ouais, ça me redonne de la vivacité. Et aussi au niveau du souffle, quoi. Surtout cette chaleur chaude. Parce que j'aime pas du tout, par exemple, le hammam, qui est une chaleur humide. Voilà, ce qui me réchauffe. La première chose qui m'est venue, c'est le sauna. Et du coup, le rayon de soleil aussi. Quand tu vas travailler le matin et qu'il y a le premier rayon de soleil qui arrive et que tu te mets dedans, c'est... Waouh! Ouais, voilà. C'est, ça donne pas trop d'images là, mais c'est waouh quoi!
Ouais, si, si. Si, voilà. Si, ça fait savourer les petits moments comme ça, les petits instants.
Ouais, c'est chouette. Ça, tu te dis, ouais, c'est cool. Ça va, je peux continuer.
Ça va aller.
Ça va aller, ouais.
Voilà. Merci. De rien. Est-ce que t'as envie de dire toi?
Ouais,
je me décale.
Hyper basique peut-être, mais un bon repas, là. Un bon repas bien chaud, bien chaud. Une bonne soupe, un bon plat mijoté, là, ça réchauffe trop le corps, quoi. Ou alors, à l'inverse, une bonne session de danse intense, là, ou de grande marche, une randonnée, un truc où ton corps, il a donné, et derrière, t'as chaud, quoi. T'as plus besoin de rien, quoi. Le physique, quoi. Ou un bon câlin, aussi.
C'est vrai, ça
réchauffe bien aussi, un bon câlin quoi. Quand t'as froid quoi, si t'as pas de couette, bah tu prends un câlin. C'est pas mal.
Même avec un doudou, ça marche.
Grave. Ouais. En fait, c'est l'intention qui compte quoi.
Trop bien, merci. Yes, et donc toi Audrey, tu vas nous raconter des trucs sur les feux follets.
Ouais, voilà, c'est la minute scientifique et aussi folklorique parce que il y a toujours plusieurs dimensions au feu. Donc les feux follets, je sais pas si vous savez ce que c'est.
Bah, j'en ai une idée vague.
Des émanations gazeuses
au-dessus
des corps.
C'est donc une manifestation lumineuse ayant l'apparence d'une petite flamme. Elle réalise des mouvements de va-et-vient et émet des scintillements. Le feu follet peut apparaître sous la forme d'une lueur pâle, de couleur bleutée, parfois jaune ou vermillon, en forme de flammèche flottant dans l'air à une faible hauteur au-dessus du sol ou de l'eau. La lumière est plus ou moins diffuse, vacillante et brève. Certains feux follets pourraient persister 10 à 30 secondes, voire plusieurs minutes. Selon les témoins, ils ne produisent pas de fumée, n'enflamment pas les objets, ni ne brûlent les herbes avec lesquelles ils sont en contact. Ils ont beaucoup été observés dans ou autour des marais, et surtout dans les cimetières humides. En latin, le mot feu follet, ignis fatuus, signifie feu bouffon. Le feu follet en tant qu'esprit est connu sous plusieurs autres noms, en fonction des régions du monde. Ghost lights aux États-Unis, lumière de fantôme, et en Inde, chirbati, qui veut dire aussi lumière de fantôme. Un peu de folklore. Les feux follets dans le folklore français sont inspirés donc des croyances catholiques et ce sont des âmes en peine qui auraient besoin de prières pour sortir du purgatoire. Il peut s'agir aussi d'enfants morts sans baptême ou d'esprits mauvais qui cherchent à entraîner les voyageurs nocturnes dans les marais et les précipices ou au fond des forêts. Les feux follets étaient vus dans la région de Pau-Audemer, en Normandie, comme les spectres de femmes pécheresses condamnées à garder cette apparence 7 ans durant. Dans le Finistère, on parlait dans le folklore local d'un démon au corps grand et maigre, du nom de Yann Gaïtan, qui faisait tournoyer sa main droite enflammée, semblable à un chandelier, pour perdre les voyageurs dans la nuit. En Inde, dans la région du Bengale, on croit également que les feux follets sont des âmes en peine, et dans plusieurs autres régions du monde. J'ai fait un peu le tour, mais voilà, je vous épargne les détails. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a aussi plusieurs rituels de protection contre les feux follets dans différents folklores, et l'un d'eux consiste à se signer ou à planter une aiguille par terre pour obliger les feux follets à passer à travers le chat de l'aiguille et pouvoir s'enfuir le temps qu'ils le fassent. Jeter une pierre dans l'eau était censé faire s'éloigner les feux follets qui brillaient au-dessus des étangs. Ils se précipitaient alors dans l'eau en ricanant. Dans le domaine des sciences, ce phénomène a reçu diverses explications. Vers le 18e, déjà, des physiciens évoquent une matière visqueuse et glaireuse, rappelant des œufs de grenouille, qui serait sublimée dans l'air sous l'action de la chaleur solaire et y deviendrait lumineuse à la manière des phosphores. En 1704, Newton cite les feux follets dans son traité Optics comme des vapeurs s'élevant des eaux putréfiées. Depuis le 19e, on spécule donc que ces phénomènes lumineux transitoires sont causés par, accrochez-vous, l'oxydation du méthane s'échappant de la matière organique en décomposition. Et après, on s'est demandé en fait comment ces molécules de gaz pouvaient s'enflammer à température ambiante ou en l'absence de tout catalyseur. Il n'y a ni combustion ni brûlure, ce qui laisse penser qu'il s'agirait plutôt d'une lumière froide de type phosphorescente qu'une flamme véritable. Le phénomène pourrait, dans certains cas, avoir été confondu avec un phénomène électrique type feu de Saint-Elme, que je pourrais expliquer une autre fois. Et en gros, l'explication la plus fréquente, c'est qu'il s'agit d'une émanation conjointe dans les sols anoxiques. Donc les sols anoxiques, ce sont des fonds de lacs peu oxygénés, des marais, des cimetières humides. Donc une émanation conjointe de méthane à partir des plantes décomposées par les bactéries méthanogènes et de forme chimique du phosphore émis par d'autres bactéries. Arrivées dans l'air, ces gaz réagissent spontanément, libèrent une grande quantité d'énergie, réaction à l'oxygène, ce qui provoque l'inflammation spontanée du méthane en présence. Ça expliquerait pourquoi les feux follets sont observés dans les cimetières, qui sont en fait provoqués par les gaz de décomposition des cadavres, à l'époque où ils n'étaient pas encore ensachés dans une housse mortuaire ou dans un cercueil. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on voit pratiquement plus de feux follets. En 2025, un trio sino-américain de chercheurs a publié les résultats d'une expérience de labo visant à reproduire ces flammèches macabres. L'équipe a montré l'existence de décharges électriques spontanées entre des bulles de méthane et l'eau. Décharges capables de déclencher la réaction d'oxydation du méthane, générant ainsi lumière et chaleur. Voilà. Et donc après, bon, il y a toute l'expérience qui est un peu compliquée. Et faut retenir que de nos jours, dans les sociétés industrialisées où les zones humides ont été drainées et ont régressé jusqu'à quasiment disparaître, et que nos défunts sont enterrés dans des cercueils complètement hermétiques, ces phénomènes bioluminescents ne peuvent plus se produire. Merci Science et Avenir et Wikipédia.
Du coup, toi, t'en as jamais vu non plus?
Et non. Mais ça m'a toujours intriguée. Et puis rien que le mot feu follet, il y avait une part, voilà, je pensais que c'était des feux fous. Ben non, c'était des feux bouffons, comme je l'ai dit au début.
Ça donne envie d'en voir, hein, quand même.
Exact. Et voilà, comme il y a beaucoup de phénomènes scientifiques que je ne comprends pas forcément, mais qui m'intriguent beaucoup, je suis allée voir aussi du côté de la régénération des forêts par le feu. Et notamment les arbres du pourtour méditerranéen, qui sont des espèces qui ont coévolué avec le feu et développé un mécanisme de coexistence. Et oui, on peut vivre avec le feu. Et donc, il y a deux processus de régénération. Le premier se fait par les graines qui survivent aux flammes. Par exemple, le pin d'Alep, quand il est soumis à de fortes températures, comme celle d'un feu de forêt, il va ouvrir ses cônes pour libérer de futures semences. Un autre mécanisme de régénérescence se fait par rejet, c'est-à-dire que les arbres, même brûlés, conservent leur système et sont capables de créer des repousses, des rejets. C'est le cas du chêne vert ou du chêne liège qui se sont dotés avec le temps d'une écorce particulièrement épaisse pour se protéger du feu.
Ok. Ben merci pour ces trucs scientifiques, ça fait du bien de se remettre un peu les idées au clair là-dessus. Et on continue par
Un autre petit extrait de ce qui nous réchauffe.
Est-ce que tu as envie de nous dire qu'est-ce qui te réchauffe dans la vie?
Ouais, c'est la bouffe.
Ok. La bouffe, genre toute la bouffe.
Bah, c'est les véganes, ouais. Ouais. Okay. Mais toute la bouffe. Après, j'ai mon plat qui me réchauffe le cœur, c'est les pâtes. Du coup, pour le coup, sans gluten, mais bref, toute pâte marche. Avec crème soja, sauce tomate, ce que j'appelais quand j'étais petit crème rose.
Ok.
Panna rosa, parce que ma mère faisait des fois ça et je kiffais trop. Et comme ça se fait rapidement, ben. Du coup, tu veux savoir comment ça se fait?
Ouais, grave.
Bah, tu cuis les pâtes.
Ouais.
Voilà, normal. Al dente, si possible, mais chacun sa cuisson. Et après, tu mets. Tu peux faire revenir un petit peu d'oignon fin. Mm-hmm. Dans de l'huile d'olive. Après, tu rajoutes à la fin, quand les pâtes sont presque faites, enfin, tu vas les sortir, quoi.
Ouais.
Tu mets la crème soja, ou alors crème normale, mais moi maintenant je fais avec crème soja.
Mais pas, dans, pas avec l'eau.
Non, juste dans la casserole, ouais. Pardon. Va dans une poêle.
Avec les oignons. Ouais.
Ouais, c'est ça. Et après, tu mets la crème soja, et du coup, ça cuit vite fait, mais ça prend un peu de goût.
Ouais.
Après, tu rajoutes de la sauce tomate,
ouais. Pour
faire en sorte que ça soit rose.
Ok.
Et après, tu prends les pâtes, tu les mets dans la poêle.
Juste la quantité de sauce hein. Tomate pour que ça fasse rose.
Ouais, c'est ça.
Ouais, ok.
Parce qu'en vrai, si t'en mets trop, ça devient tout de suite trop
ouais.
Rouge.
Ouais.
Et le goût, c'est pas pareil.
Ok, après, t'égouttes les pâtes et tu les mets
dans la poêle. Ou alors, okay. Si t'as pas assez de place, bah, tu prends un saladier et tu mélanges tout là-dedans.
Ok.
Et par contre, faut faire gaffe, faut mettre beaucoup de. Enfin, faut que la sauce soit beaucoup parce que sinon, les pâtes absorbent beaucoup la crème soja.
Ouais.
Ou la crème, enfin voilà.
Ouais.
Même la crème d'origine animale. Et du coup, après, c'est tout un peu sec, quoi. Enfin, ça fait pas. C'est le bon goût, là.
Ouais,
le bon son.
Le petit bruit, ouais.
Ouais. Et voilà. Et après, dessus, tu peux mettre la levure de ce que tu veux. Et ça, ah ouais. C'est trop bon. Vraiment. Ah, quand je suis triste, je mange ça.
Ah ouais. J'ai essayé.
Voilà.
Merci
ouais.
Beaucoup.
Avec plaisir. À toi.
Eh ben, il a l'air trop classe, ce micro-trottoir que tu as pu faire dans ton stage de danse. Pour continuer, on va s'écouter une chanson que, enfin, on pouvait pas passer à côté, quoi. C'est Girls on Fire d'Alicia Keys. Elle est sortie le 4 septembre 2012. C'est le premier single de son cinquième album Girl on Fire, sorti donc en 2012. Ça parle d'une femme qui se bat pour quelque chose, qui vit ses passions, une femme qui ose être elle-même. Et dans le clip, Alicia Keys est une mère de famille qui passe l'aspirateur, fait la vaisselle, la cuisine, le ménage. This Girl is on Fire, le refrain parle de ces femmes au foyer qui sont sur le feu, toujours à travailler, à avoir quelque chose à faire. Et voilà, les paroles du morceau, ça évoque la renaissance d'une femme plus forte que jamais qui participe donc au succès de la chanson, alors qu'Alicia Keys met résolument en avant ses convictions féministes. C'était peut-être même un peu avant-gardiste pour l'époque. Et voilà. Et juste pour dire qu'il y a deux versions de ce morceau, enfin deux versions alternatives enregistrées en bonus, une version Inferno accompagnée d'un featuring avec Nicki Minaj et une version minimaliste nommée Blue Light. Mais là, moi, j'ai choisi la mainstream, celle qui reste dans la tête pendant des mois après, quoi. She's just a girl and she's on fire. Hotter than a fantasy, lonely like a highway. She's living in a world and it's on fire, filled with catastrophe, but she knows she can fly away. Oh, she got both feet on the ground and she's burning it down. Oh.
You can try, but you'll never forget her name. the girl, but she's on fire.
Bah moi, du coup, j'ai pas fait le micro-trottoir, mais je vais vous parler aussi de ce qui nourrit mon feu intérieur, à savoir la culture lesbienne hein, et féministe, toujours. Donc je commence par un extrait de « Viendra le temps du feu », Wendy Delorme, que j'ai relu pour l'émission. Ça raconte une société totalitaire aux frontières closes, bordée par un fleuve. Sur l'autre rive subsistent les vestiges d'une communauté de résistantes inspirée des guerrières de Monique Wittig. Dans la capitale du territoire fermé, divers personnages se racontent leurs aspirations, leurs souvenirs, comment survivre, se cacher et se faufiler dans un monde où les livres sont interdits. Une dystopie où se reflètent les crises que nous traversons aujourd'hui. Un roman choral et poétique, incandescent, où l'on parle d'émancipation des corps, d'esprit, de révolte et de sororité. Un hommage à la littérature et à son potentiel émancipateur et subversif. Voilà, j'ai sélectionné quelques passages pour vous, histoire de vous donner envie de le lire. Et là, c'est donc une des femmes issues de la communauté de sœurs qui parle. Ce matin, l'air avait un goût fort de fumée. C'est la grande cathédrale de cette ville capitale qui a brûlé hier la soirée tout entière. Le peuple de la nuit l'a regardé flamber, noircir et s'écrouler, un morceau après l'autre, jusqu'à ce qu'elle ne soit plus qu'une immense carcasse entièrement calcinée quand l'aube s'est levée. Au frémissement long qui s'emparait des corps d'ordinaire si discrets, je me suis senti gagné par une vibration très communicative, une forme d'excitation, de joie très primitive. C'est là que j'ai compris. Nous, que personne ne voit, qui gardions le silence dans la lueur des flammes qui léchaient le parvis, nous étions une armée. C'est l'une ou l'un d'entre nous, sans doute, qui a lancé le feu. Une personne qui veut envoyer un signal. Peut-être y en a-t-il plusieurs. Toute l'agitation causée par cette urgence d'éteindre l'incendie avant qu'il se propage a fait que la police, pour une fois, oubliait de nous mener la chasse. Nous, ombres immobiles face aux brasiers géants, grandissions en nombre jusqu'à former une foule. Et je voulais vous parler aussi d'un film bon, voilà, que les gens de moins de 20 ans ne connaissent pas. C'est l'époque où on téléchargeait des films lesbiens sous le manteau. Ça s'appelait Les Movies sur Emule et voilà, autre serveur de partage de streaming. Un peu les ancêtres du streaming. Et donc ce film lesbien, il nous vient d'Inde. Et il date de 96, voilà. Et faut savoir que c'est une adaptation d'un roman d'Ismat Chughtai, écrit en 1941. Voilà, ça y est, je vous ai perdu. Mais cette histoire, en fait, a bien résonné pour moi, parce que bon, au départ, c'est deux femmes qui épousent deux frères, en fait. Et il y a le mari, Justine, de la première, qui déjà commence à regarder d'autres meufs, qui délaisse sa femme. Et le frère, il fait un petit peu pareil. Et du coup, bah, en fait, elle se révolte et bouscule le fragile équilibre de la famille. Et en fait, les deux femmes se rapprochent progressivement et se rebellent. Et voilà, cette... Du coup, ce film a déclenché une grosse controverse en Inde à l'époque, violemment critiqué, ses opposants lui reprochant, entre autres, l'érotisme entre femmes. Ça met le feu. Forcément, contraire à la religion hindouiste, venue de l'Occident, etc. Et de nombreuses salles ont été saccagées et brûlées lors de la projection du film. Ces attaques ont suscité des réactions de défense de la liberté d'expression. Le film a fini par ressortir en 99 sans censure et on considère vraiment qu'il a rendu visible les lesbiennes en Inde.
Et du coup, si on veut le voir, est-ce qu'il faut retourner sur Les Movies ou comment on fait?
C'est une bonne question. C'est pas facile à trouver en vrai les films lesbiens, même avec tous les moyens de partage qu'il y a aujourd'hui. Donc j'imagine un moyen payant, oui, facile, mais gratuit.
Et il s'appelle comment du coup?
Fire. Peut-être à projeter avec Radio Rayon une prochaine.
Bah oui, carrément.
Et toi, t'as des souvenirs de ce que t'avais kiffé dans le film comme...
Ouais, du coup, c'est vraiment les scènes érotiques qui sont incroyables. Okay. Voilà, des regards, des touchés, bah, ouais, beaucoup de sensualité. Et puis comment le désir naît petit à petit, quoi. J'aime trop voir comment ça s'embrase dans les cœurs et dans les corps.
Ça te donne envie?
Bah ouais, carrément. Bon, voilà, petite projection à organiser. Hein.
Alors, petit appel à vos recherches, si jamais vous trouvez le film, le lien du film, une manière de le regarder, n'hésitez pas à nous écrire à l'adresse mail l'éclat des noctules.
Non, noctules.
Pardon.
Noctule avec un S, @mailo.com. Ouais.
Ça nous fera trop plaisir. Et puis nous, si on le trouve, on vous donne l'info dès qu'on l'a.
Et on organise une projection ici, dans le Royan. Allez.
Tac. Ouais, voilà, comme ça, ça pourrait marcher, non? Ça te dérange pas que je mette ça là?
Non, non, non.
Ok.
Ok.
Alors, est-ce que, Elisa, tu serais ok de nous dire qu'est-ce qui te réchauffe, toi, dans la vie ou bien en ce moment?
Eh ben, je dirais qu'en ce moment, c'est vraiment me blottir contre mon amoureux en chien de fusil sous la couette.
Ok.
Ouais, ça met du soleil ou de la chaleur? C'est quoi la question?
C'est ce qui te réchauffe.
Ah oui, voilà, ben voilà, ça me réchauffe bien. Bien, bien. C'est une espèce de bouillotte à deux qui est assez efficace et voilà, pleine de chaleur.
Tu peux le faire souvent?
Je peux le faire, ouais. Ouais, ouais. Ce soir, non. Mais demain soir, je pourrais, ouais. Je n'y manquerai pas, d'ailleurs.
Chouette, alors.
Ouais, chouette.
Est-ce que quelqu'un d'autre veut dire? Ouais. Alors, qu'est-ce qui te réchauffe, toi?
Alors, en ce moment, moi, c'est de prendre mon chien sur mes genoux des heures sur mon canapé et lui faire plein de câlins. Voilà.
Comment il s'appelle, ton chien?
Godzilla. Et il est tout petit. Voilà. Et le feu de cheminée, en ce moment. Ça, c'est super aussi.
Voilà. T'as une cheminée chez toi?
Ouais.
Ah ouais?
Le bois, c'est vraiment super. C'est la meilleure chaleur, je trouve. Après le chien.
Toi, tu veux nous dire?
Ouais. Bah, moi, là, comme c'était l'hiver et que j'avais mon nouveau chez moi avec un poêle, bah, c'est d'allumer mon poêle. J'adore ça aussi. Ça fait du chaud dans le petit cocon. Ça fait vraiment... Ça réchauffe le corps et le cœur. Et sinon, ça réchauffe aussi de marcher au soleil. Même quand il fait froid.
C'est vrai ça, même quand il fait froid, après on a chaud.
Ouais, et puis ça, je sais pas, c'est comme si je trouvais que c'était un froid agréable.
Quelqu'un m'a dit un jour que marcher, c'est le truc le plus efficace pour se réchauffer dans le rapport calorifique entre la vitesse à laquelle on va et le mouvement qu'on fait.
J'ai dû le sentir.
Par rapport au vélo, par exemple, où il y a beaucoup trop d'air pour... Bref. Et ouais, ouais. Alors, la suite, c'était... on remet une petite couche de trigger, c'est maintenant qu'il va y avoir une partie qui parle des sujets sensibles de suicide et d'immolation. Du coup, voilà, bah c'est pas le moment pour vous d'écouter. Ça va durer un bon petit moment quand même, donc voilà, 20 minutes. À peu près, un peu plus même, donc...
Et on commence avec d'autres passages de Wendy Delorme, Viendra le temps du feu, qui parle justement d'immolation.
Ouais, et même plutôt deux fois qu'une. Premier passage, c'est la seule délégation qui venait du Sahel pour se faire entendre au sommet annuel, donc imaginez une grosse COP ou un truc comme ça, n'a pas été admise à passer la frontière sud la veille de son audience. 5 femmes étaient venues des terres les plus arides, en bateau puis en train, le trafic aérien leur étant refusé. 4 jours de voyage, venus pour raconter que la saison des pluies devenait meurtrière, d'immenses inondations, que la terre asséchée ne parvenait à boire, emportait des villages dans des torrents de boue. Les 5 femmes ont attendu 3 jours avant de recevoir une notification de non-reconduction de l'audience annulée. Le 4e jour, de désespoir, l'une d'elles s'est immolée devant le poste frontière, causant un incendie, déclenchant une émeute. Et là, ça parle d'un personnage qui est un peu l'avatar de Greta Thunberg. Voilà. Lorsqu'une grande canicule, la dixième en 3 ans, a été annoncée au début du printemps, GIA a convoqué une conférence de presse. L'événement a eu lieu dans la capitale de notre territoire, au dernier étage de la tour des médias, au centre de la ville, pour en faire un direct avec retransmission, traduction en 5 langues. Lorsqu'on l'a appelée à 15h à l'estrade, Géa est apparue plus chancelante et maigre qu'on ne la connaissait. Elle semblait affaiblie, la petite conquérante, icône des 12-20 ans. Un murmure frémissant a parcouru la salle. Elle a pris son micro, puis l'a reposé. Sans rien dire, lentement, elle a versé sur elle et partout autour d'elle ce que l'on croyait être une bouteille d'eau, en signe symbolique de l'eau qu'on gaspillait dans les grandes industries, les usines textiles ou agroalimentaires. Quand elle a pris ensuite un briquet dans sa poche, il était bien trop tard. La scène a flambé, les vigiles ont couru vers les extincteurs, mais avant qu'ils parviennent jusqu'à son corps en feu, elle s'était projetée contre la baie vitrée, au 12e étage de la tour des médias. Les chaînes d'information ont des heures durant passé et repassé l'image de ce corps, cette boule de feu, qui tombait dans le vide. Ma mère avait 11 ans. Elle voit sur les kiosques les gros titres en gras. Suicide d'une icône pour sauver la planète. Les jeunes des pays riches suivent obsessionnellement chaque jour sur les réseaux ce journal mortifère du monde qui s'effondre. Ils avaient un espoir, maintenant ils ne l'ont plus. Ils veulent oublier, disparaître et punir les adultes qui, eux, n'ont rien voulu entendre, rien fait pour leur avenir. 24 heures seulement après l'immolation de la petite Géa, une jeune fille brûle vive à l'entrée du collège que fréquentait sa mère. Un matin à 8 heures, juste quand la sonnerie bat le rappel des classes, un brasier s'élève autour d'une jeune silhouette qui s'était elle-même enchaînée à la grille. Dans la journée qui suit, 2 autres adolescents s'immolent dans des lycées, causant des incendies. Les établissements sur tout le territoire sont alors placés sous haute surveillance, les sacs fouillés, les jeunes interdits de briquets, allumettes et matières inflammables. Les adultes se disent que la situation va s'apaiser d'elle-même. Peu de jeunes ont la force de se faire brûler vif, espèrent les parents. Voilà pour la fiction, rejointe de près par la réalité, puisque ça est arrivé plusieurs fois dans l'histoire récente. Donc une immolation qui déclenche des émeutes, c'est le cas par exemple de Mohamed Bouazizi, qui était un vendeur ambulant en Tunisie, et son suicide par immolation le 17 décembre 2010 est à l'origine des émeutes qui déclenchent la révolution tunisienne. Et Vincent Ben Ali du pouvoir, et donnant lieu à des protestations et révolutions dans plusieurs autres pays arabes, connus sous le nom de Printemps arabe. Et voilà, ce qui est intéressant, c'est un article de Slate qui nous donne ces informations, c'est que l'immolation, elle est décrite comme un suicide sacrificiel, qui cherche à marquer les esprits et provoquer une réaction de la société et à désigner un responsable. On avait vu donc là dans l'histoire de Wendy, donc c'est par rapport à une décision d'État. Là, c'est la même chose, donc ça fait écho à ça, c'est que l'acte devient un message politique quand toute autre forme de parole est impossible. Et enfin, cet article conclut que l'immolation par le feu relève moins d'une pathologie individuelle que d'une pathologie sociale, qu'elle est le symptôme d'un malaise collectif lié à l'oppression politique, aux inégalités, à la corruption et au sentiment d'invisibilité. Et elle constitue un cri public que voilà, les autorités tentent souvent de disqualifier en réduisant ça à un trouble mental, un problème d'individu, mais c'est pas le cas, on en est convaincus ici.
On va continuer à parler d'immolation politique, mais avant, on va s'écouter un petit son qui date de 2013 de Ayo et de Youssoupha. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce tube qui a un peu cartonné à l'époque, qui parle de foule en feu, qui parle de love, qui parle de puissance, qui parle... je vous laisse écouter.
Et la foule fait ce qu'elle veut. Elle est là pour faire face. Elle vient pas foutre le feu. Elle vient déclarer sa flamme. Fire.
Is anybody listening? The city's on fire. The town is burning down, but there's no water, da, da, da. 8 million citizens, nobody's really listening, nobody's really watching. 8 million ignorant, 80,000 teachers, way too many preachers. A thousands of leaders, but nobody leads us. 3 million beggars, 4 million pleasers. We are the world, but they don't really need us. Ghetto got no funds, ghetto ain't no fun. Ghetto kids got guns, ghetto got no one. Ghetto got no funds, ghetto ain't no fun. Ghetto kids got guns, cause they got no one.
One love pour mes soldats, one love pour mes petites sœurs. Prise en otage avec une bombe à la place du cœur. C'est ça même.
Is anybody listening? The city's on fire. The town is burning down. But there's no water. Is anybody listening? The city's on fire.
À haïr, mais je vous aime quand même. On m'a appris à trahir, mais je vous relève quand même. Je ne suis pas venu seul, viens ma soeur que je t'emmène. Je n'ai que ma grande gueule, pas de gun, que des emmerdes. Viens que je t'emmène, viens que je t'enlève. Viens que je te sauve, que je te cause, que je t'engraine. Graine de colère, mon ghetto est sous pression. Jour de tonnerre, peu de réponses, trop de questions. Nous terre par l'oppression, qu'on tombe de sommeil. Comment nous faire de l'ombre, on est les enfants du soleil. Viens, viens, on reste dur, que notre bruit dure quand même. Même entre les murs, qu'on se murmure quand même. Viens, viens, on brûle le mic, putain, parce que ma rime est on fire. Ma vie est on fire, ma ville est on fire. Crève, guerre, des merdes, vénère, brailleur. Crabe, besoin d'air, j'émerge, besoin d'ailleurs. Donc, je me répète, ma rime est on fire. Ma vie est on fire, ma ville est on fire. Qui pourra nous comprendre, besoin d'un traducteur. L'amour en cendre avec une bombe à la place du cœur. C'est ça, man.
Is anybody listening? The city's on fire. The town is burning down. Is anybody listening? The city's on fire.
Yeah.
The town is burning down.
L'amour en cendre avec une bombe à la place du cœur.
Nobody's listening to the sounds of the street, the clamor, the violence, the sirens, the heat. 5 million scared, 3 out of 5 million desperate. 1 million hurt, thousands arrested.
Yeah. Allume ton esprit, sors de leurs griffes. Relève ton estime, sors de leurs chiffres. J'enchaîne les coups de gueule. Mais on ne libère pas un peuple se libère tout seul. Fire.
The city's on fire. The town is burning down. There ain't no sounds of silence. Tell me who's gonna help us now. Nobody's listening. 8 million people crying, looking for shelter. But they got nowhere to go. Is anybody listening?
Allez leur dire que ma ville est on fire.
The town is burning down.
Et j'ai une bombe à la place du cœur.
Is anybody listening?
Rien à faire, ma vie est on fire.
The town is burning down.
Et j'ai une bombe à la place du cœur.
Is anybody listening?
Allez leur crier que ma ville est on fire.
The town is burning down.
Et j'ai une bombe à la place du cœur.
Is anybody listening?
Rien à faire, ma vie est on fire.
The town is burning down.
Et j'ai une bombe à la place du cœur.
C'était Fire, un titre de Ayo et Youssoupha, qu'on a mis au milieu de ce passage un peu sur l'immolation comme acte politique. Et moi, je vais enchaîner, comme l'a dit Audrey juste avant qu'on passe ce son, l'immolation est souvent dans plusieurs pays ou cultures un acte d'expression. Quand l'expression est coupée. Et moi, je voulais vous parler d'abord d'un webdoc réalisé par Samuel Bollendorf et Olivia Callo en 2014, qui s'appelle Le Grand Incendie. Moi, je découvre ce webdoc dans un festival de documentaires à l'hiver 2014, alors que je travaille dans une association d'éducation populaire. Et voilà, c'est le choc, parce qu'il percute par les échos qu'il fait, il me percute par rapport à ce qu'il fait comme écho à mon histoire familiale. Et il met des mots et du sens sur des zones d'ombre que j'ai encore à ce moment-là. Alors malheureusement, il est introuvable en ligne, ce documentaire. Moi, j'ai contacté les auteurices qui m'ont renvoyé vers la Bibliothèque Nationale Française. C'est pas facile de l'atteindre et je l'ai pas encore trouvé, mais je perds pas espoir. Je vous lis le pitch. En France, depuis 2011, tous les 15 jours, une personne s'immole par le feu sur la place publique, sur le parking de leur entreprise, dans la cour d'école, devant le centre des impôts ou le palais de l'Élysée. Au-delà des faits restés sans écho, le grand incendie raconte ses actes ultimes de contestation. C'est aussi du coup devenu un livre en 2015. Samuel Bollendorf, qui est photographe et donc qui s'était associé à Olivia Callot sur ce webdoc, a photographié 11 de ces lieux en France et à l'étranger, tel un coin de trottoir ou une zone périurbaine. Le livre restitue donc la parole de ces hommes et de ces femmes ou de leurs proches, édifiante et terrifiante. L'immolation n'est pas un cri comme les autres. Il s'agit bien d'un acte extrême de contestation politique. En France, il raconte la quasi-disparition de la lutte collective, la fin des solidarités et le délitement du service public. Nous connaissions les immolations au Vietnam, à Prague, au Tibet, en Inde ou plus récemment en Tunisie, dont Audrey a parlé juste avant, plus tôt quoi, dans l'émission, pour leur portée révolutionnaire. Lorsque ces actes ont lieu à l'étranger, c'est bien la protestation qui interpelle. Là où en France, un discours sur la fragilité psychique des individus qui commettent ces actes occulte le message. Du coup, dans ce documentaire, une des choses que j'apprends, c'est l'immolation comme un acte massivement utilisé par les moines tibétains. Et du coup, je suis allée un peu farfouiller de ce côté-là. Donc depuis 2009 et plus intensément à partir de 2011, les immolations de moines, de nonnes et de laïcs tibétains constituent avant tout un acte de protestation politique radicale face à la domination chinoise sur les régions tibétaines. Loin d'être des gestes isolés ou uniquement religieux, elles s'inscrivent dans un contexte de répression systématique du contrôle sécuritaire accru et de restrictions sévères des libertés culturelles, religieuses et linguistiques. Du coup, les revendications exprimées par les immolés sont la liberté pour le Tibet, le respect de la religion bouddhiste, la protection de la culture tibétaine et le retour du Dalai Lama. Ces gestes visent à rendre visible une cause rendue muette par le blackout médiatique imposé par Pékin. Et dans des régions largement fermées à la presse et aux observateurs internationaux, l'immolation devient un ultime moyen d'expression politique destiné à alerter l'opinion mondiale. Les autorités chinoises qualifient systématiquement les immolations de crimes manipulés par des forces séparatistes, tandis que l'administration tibétaine en exil et plusieurs ONG y voient la conséquence directe d'une escalade de la répression. Le Dalai Lama, lui, il adopte une position prudente. S'il ne soutient pas ses actes au nom de la non-violence bouddhiste, il en souligne la cause politique profonde, évoquant un génocide culturel. Oui, parce qu'il faut savoir que l'immolation, comme le suicide en général, c'est pas quelque chose qui est très bien vu dans les religions, que ce soit le bouddhisme, mais aussi dans le judaïsme ou même dans le christianisme. Il y a un traitement particulier des personnes qui font ça. J'ai pas le temps de m'étendre là-dessus, mais en tout cas, c'est aussi pour ça que le Dalai Lama, il arrive, il soutient, mais il a du mal à embrasser complètement le type d'acte, quoi. Du coup, les immolations tibétaines, elles doivent être comprises comme une forme extrême de résistance non armée, révélatrice d'un conflit politique non résolu entre l'État chinois et une population privée de canaux légitimes pour exprimer les revendications. Elle incarne le désespoir d'une société où l'espace de contestation pacifique est progressivement fermé, transformant le corps individuel en dernier support de protestation politique. Et après la question du Tibet, je suis allée voir aussi un peu ce que l'immolation, donc comme Samuel Bollendorf l'a fait dans son webdoc, qu'est-ce que ça voulait dire en France. Et il y a un article de Nora Boisouni, publié en 2013, qui s'appelle « L'immolation, un geste spectaculaire éminemment politique ». Et là-dedans, j'ai lu que le suicide par immolation est un acte extrêmement rare et symboliquement fort, et qui a connu une recrudescence à cette période, donc là on est en 2013, notamment en France, où une cinquantaine de cas ou tentatives ont été recensées en 2 ans, souvent devant des institutions publiques ou sur le lieu de travail. Historiquement, ce geste existe depuis l'Antiquité et c'est généralement interdit par les grandes religions, comme je vous le disais avant, mais il a parfois été perçu comme un sacrifice pour une cause jugée supérieure. En France et en Europe, l'immolation est analysée comme un suicide militant, toujours public, visant à interpeller la société. Des experts soulignent qu'il s'agit à la fois d'un acte de souffrance extrême et d'un message politique destiné à susciter empathie et prise de conscience. la recrudescence qui a eu lieu donc en 2013, donc qui a aussi amené ce documentaire en 2014. Ça s'inscrit dans un contexte de crise sociale et professionnelle, précarité, transformation du travail, perte de sens, stress et isolement. Selon des psychiatres et des spécialistes du travail, l'effritement du lien social et de la reconnaissance professionnelle pousse certaines personnes à des gestes désespérés, perçus comme le dernier moyen de se faire entendre et de donner un sens à leur souffrance. Ben voilà ce que je voulais un peu amener sur cette question de l'immolation comme geste politique. Et du coup aussi...
Et sur, parce que là, tu parlais de 2013, donc ça fait un petit moment.
Ouais.
Est-ce que on sait si... Plutôt, il y a des chances que ça ait pas que ça se, enfin que ça ait pas descendu, mais que ça ait plutôt augmenté. J'ai l'impression que si déjà en 2013, ça disait qu'il y avait une recrudescence avec beaucoup de détresse, de délitement des liens sociaux, de.
Bah, c'est sûr que le contexte politique, il va pas
de
mieux,
moins
quoi.
En moins, ouais. Politique sociale, économique.
Ouais. Je suis pas allée vérifier les statistiques en termes d'augmentation ou de diminution de ce type d'acte et de revendication. Je sais pas, t'es allée voir.
En tout cas, par rapport au traitement médiatique, j'ai l'impression qu'il y avait vraiment cette vague 2013 là par là où il y en a eu plusieurs et qu'on entendait parler assez souvent. Et maintenant, je sais pas si c'est passé à la trappe parce qu'il y a d'autres trucs, voilà. Mais j'ai l'impression qu'on en parle moins, en tout cas dans les médias. Est-ce que ça correspond à une réalité? Ça à vérifier.
Ouais, à aller voir. C'est vrai qu'il y a eu toute une phase, effectivement, dont là je viens de parler, avec. Mais il y avait une prof dans une cour de lycée, il y avait effectivement des personnes devant France Travail, qui étaient Pôle emploi à ce moment, mais. Ou sur leur lieu de travail, effectivement. Ouais, à aller voir, ouais, carrément. Et du coup, moi, pour clôturer un peu cette partie sur la question de l'immolation, moi j'ai écrit un texte qui s'appelle « Corps cendre ». C'est assez récent, hein, ça fait 2 ans. Et que j'ai dédicacé à ceux et celles dont j'hérite. Ça parle de mon histoire familiale, qui évoque notamment la mort de mon père. Et que Chico et Audrey se sont répartis pour vous le lire.
Un peu de poésie, donc, de Céline. Dans un nuage de fumée s'élevant au-dessus de la forêt, ton corps s'évade.
Corps de chair et de douleur. Corps de cicatrices et de non-dits. Corps noué de silence.
Tu portais le poison de la détestation sans le savoir. L'insulte s'est brisée sur ton échine courbée. Corps fumé, corps évaporé pour que la souffrance cesse.
Effacer toute trace de honte. Faire s'évanouir la voix qui dit « Crève, ignoble rat. » Corps monstre.
Corps flamme, corps tue. Qu'est-ce que ton corps avait de si brûlant à dire pour que tu le réduises ainsi en cendres? Corps ennemi, corps cage, corps rage.
Comme les millions d'autres, ton corps, rempart contre la haine, tombeau sous les décombres de la cruauté, la haine qui s'immisce sous la peau, malmène les viscères. Le sang et l'âme.
Corps monstrueux, corps chimère et ténèbres, corps orage.
Corps tourné vers ce passé, tendu de douleur. Corps mémoire.
Corps peau qui se dilate dans le temps. Corps beau entravé par l'avant.
Monstre sacré, monstre cramé. Tu as subi plus que sublimé. Tu as enfoui plutôt que déterré.
Corps humilié, corps réifié. Corps déshumanisé, corps génocidé.
Comme les millions d'autres. Corps absent qui prend toute la place. Corps géant dans l'ombre duquel je suis figé.
Corps tabou, corps déni. L'humanité disparaît au fur et à mesure que ton corps se consume.
Corps muselé, corps mot, corps cri.
Corps barbelé, corps charbonné. Corps cendre et...
Et moi, corps en vie, en vie de corps, encore.
Vos cadavres s'amoncellent dans mon ventre, écartèlent mes entrailles. Mes intestins grouillent de vos peaux, vos os, vos cœurs, festins de douleur.
C'est lourd sur le bide des cadavres.
Vivre est une trahison, corps prison.
Je suis une erreur, imposture. Mirage, corps illusion, corps abstraction.
La respectabilité en bandoulière, je trébuche sur vos corps entassés,
Je me cogne à vos peines accumulées.
Le silence ne me protégera pas. Il ne t'a pas protégé, toi.
Vos cris sont noués dans ma gorge. Je déglue, dis, la souillure. L'odeur de la chair calcinée ressac de l'insulte.
Asphyxie.
Les mots agonisent, résonance muette.
Corps charbon. Je meurs mille fois de ta mort.
Et moi, corps caillou, corps souvenir, meurtrissure, je saigne vos vies. Mon désir cherche à tâtons un chemin à se frayer au cœur du charnier, sépulture sans corps.
Je déborde au lieu de disparaître. Corps béance, corps légende.
Audace, incarnée, incramée, je romps le silence qui gangrène.
Je jouirai sur vos cendres. Été 2024. Alors, ce qui vient, c'est un gros son de Kai Tempest qui est dans son dernier album qui est sorti là il n'y a pas hyper longtemps, en 2025, qui s'appelle Self Title. Et le morceau qu'on va écouter, ça s'appelle Prayers to Whisper. Les whispers, c'est les chuchotements et des prières à ceux qui chuchotent. J'imagine que c'est ça. Et alors, voilà, c'est un son pour quelqu'un qui est mort, qui s'est suicidé. Et je vais vous lire quelques petits bouts de ce qu'il raconte. Et nous parlions en cercle calme à propos de la douleur. Rien ne guérirait. Nous avons dit qu'au moins elle ne souffrait plus. Pour chaque jour que tu pouvais pas supporter. Et chaque nuit qui t'a laissé à vif. Au moins tu ne souffres plus. Comme ton ombre dans le coin. Tu étais prisonnier de guerre. Tes sourires étaient tordus comme le bois flotté qui s'est échoué sur la rive. Parce que nous souffrons de plus en plus, mais nous savons que vous ne souffrez plus. Des prières à chuchoter, des verres à servir. Parce que tu avais tellement de choses en réserve. On allume un feu, on le laisse rugir.
I smoked outside the door. We spoke in quiet circles about the pain nothing could cure. We said at least she does not suffer anymore. For every day you couldn't bear, every night that ran you raw, for all the words you couldn't find to name the things you saw. Well, at least you do not suffer anymore. My anger is useless and impossible to ignore. Was that your shadow in the corner keeping score? I'm not sure, but I hope you do not suffer anymore. Prayers to whisper, drinks to pour. 'Cause you had so much left in store. We build a fire, we let it roar. 'Cause you had so much left in store. I saw a stranger in a jacket that you wore, and it hurt me to remember the girl I knew before. Well, at least you do not suffer anymore. But even way back then, you were a prisoner of war. Your smiles were twisted as the driftwood that washed up on the shore. Well, I hope you do not suffer anymore. Jury's out, decisions split. Was it bravery or was it cowardice? Nobody is sure, because we suffer more and more. But we know that you don't suffer anymore. To whisper, drinks to pour. 'Cause you had so much left in store. We build a fire, we let it roar. 'Cause you had so much left in store. We've got prayers to whisper, drinks to pour. 'Cause you had so much left in store.
you had so much left, you had so much left, you had so much left, we had so much left, you had so much left, you had. Or maybe we die so others can be born. Maybe we age so others can be young. Maybe the point of life is live, love if you can. Love while you can. Love if you can. Then pass it on. We miss you.
Ouais, mais je trouve qu'il y a même l'effet. À un moment, j'avais trop rigolé dans le hangar. On avait organisé un événement et on avait mis une fausse cheminée. Je sais pas si vous voyez avec les lumières comme ça qui imitent le feu. Et en fait, après, il faisait super froid et les gens, ils allaient se mettre devant la cheminée. Mais c'est incroyable l'effet psychologique, tu vois, de voir la lumière ou des moments où tu allumes la lumière et tu as l'impression qu'il fait plus chaud. Enfin, c'est vraiment. C'était tellement drôle. Puis tu voyais vraiment les gens qui se mettent les mains vers la cheminée comme si c'était vrai, pour se réchauffer. Là, t'es là, ceci est un...
Le pouvoir du cerveau. Quoi.
Ceci est une lumière rouge et une petite soufflerie dans du plastique.
C'est un placebo.
Ouais.
Il y a des gens qui n'ont pas de cheminée qui vont mettre sur leur écran de télévision. Mais je pense que ça les réchauffe quand même. Moi,
je pense
vraiment qu'il y a l'intention d'être devant un feu de cheminée fait que ton corps il se met
en disposition
de, il y a de la chaleur, même si c'est un écran de télévision.
C'est vrai que j'ai déjà vu ça.
Et est-ce que toi qui te conduis, tu voudrais nous dire quand même ou c'est compliqué, tu penses?
Je donnerais bien toutes les réponses qui ont été données en fait. Donc, moi aussi, en ce moment, avec le froid, j'ai la chance d'avoir un poêle et j'avoue que souvent on est beaucoup à être collé au poêle. Après, moi aussi, j'ai mon amoureux qui peut me réchauffer. Mais ouais, je sens qu'en ce moment, j'ai besoin de chaleur. Donc, ça peut aussi être une bouillotte d'eau chaude. Ça peut être un bon chocolat chaud. Ça peut être la danse. Là, toi, d'avoir dansé tout ce week-end, ça m'a bien tenu chaud aussi. Voilà, je me dis, mais pour se réchauffer, il y a pas mal de choses. Voilà. Pour l'instant, c'est ça qui me vient.
Je peux rajouter un truc?
Mais grave.
En fait, ça m'a rappelé qu'il y a 2 semaines, j'ai fait un hammam et c'était bien réchauffant aussi.
Il y a des endroits aussi où il y a des flammes éternelles. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé dans des endroits comme ça. Il y a du gaz qui sort de la terre. Wow. Et ça fait une flamme. Et ça fait des flammes qui brûlent tout le temps.
Bleu ?
Et pas forcément bleu, peut-être. Non, pas complètement bleu. Pas que bleu, je crois. Mais des fois, bleu. Pardon, t'as dit quoi ?
Bah, j'ai vu ça au fond d'un volcan, mais je ne sais pas si c'est... Si c'était ça ou pas ça. Si c'était du gaz. Ou... Enfin, je ne sais pas ce que c'était. Mais ça faisait des... lueur bleue. Ça c'est beau.
T'étais en haut du volcan et tu voyais le fond.
Comment expliquer? On descend dans le cratère en fait, parce que c'est devenu une carrière de soufre. Et donc il se passe des choses au lever du jour, enfin avec la nuit.
Ah ouais? Il se passe quoi?
Bah, ces espèces de flammes bleues, enfin, ces effets, et je pense que c'est du gaz qui s'échappe du soufre, enfin, ou c'est le soufre qui se transforme, je sais pas trop.
Ouais, c'est pas tout le temps, quoi, c'est vraiment au lever du jour.
Ou c'est peut-être tout le temps, mais on le voit qu'avec la nuit.
Ah oui.
C'est possible.
Ouais.
Mais parce qu'après, c'est jaune, sinon le reste.
C'est quoi qui est jaune le reste?
Ben le soufre, les blocs de soufre, enfin le...
Dans le cratère.
Ouais.
Ok. Vous êtes toujours sur Radio Rayon. Vous écoutez l'éclat des noctules. Et voilà, sur 93 FM, on parle du feu. Aujourd'hui, Et alors, à propos du feu, moi, j'ai été regarder un peu les dragons. Parce que finalement, donc, dans l'intro, on vous a dit qu'on n'allait pas parler des dragons. Finalement, on a le temps. Alors, on va parler des dragons, entre autres. Et t'as fait un peu des recherches sur les trucs plutôt de la symbolique, des symboliques du feu, des différentes symboliques du feu.
Ouais. Tu veux que je dise des trucs ou non, d'abord toi, sur les dragons? Parce que moi, quand même, la figure du dragon, je me suis dit, c'est quand même un... Est-ce que c'est plus un être mythologique, tu vois? Ou est-ce que c'est un être... Enfin, moi, je pense à Peter Pan, en fait. Pas Peter Pan, pardon. Peter le dragon.
Ah oui, je me suis dit Peter Pan, je voyais.
Non,
pas.
Rien à voir, pardon.
C'est quoi Peter le dragon?
Non, c'est pas Peter. Non, Elliot le dragon.
Attends, ah oui, le film.
On enlèvera ça. Elliot le dragon.
Bah si, ça marche de se tromper, non?
Ouais, grave. Enfin, bref, c'est mon film d'enfance où je l'ai vu mille fois.
C'était un dragon gentil.
C'était un dragon gentil qui était pote avec un petit garçon. Je me rappelle plus bien, mais en tout cas, je me disais, mais c'est quoi cet être, quoi? Du coup, c'est quoi le dragon, Chico?
Ouais, mais apparemment, le dragon, ça existe. Enfin, le mythe, en tout cas, du dragon, il existe vraiment aussi loin que l'humanité a vécu. Il y a des très très vieilles peintures, des très 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 anciennes traces qui et l'évolution du, enfin le déplacement du mythe du dragon correspondrait en fait au déplacement des humains et des humaines sur la Terre. Et donc ça veut dire que le mythe a l'air de naître en même temps que et aux mêmes endroits que les formes d'humanité qu'on appelle comme ça. Donc, sur tous les continents, dans toutes les cultures, et depuis des millions d'années, il y a des dragons. Certainement qu'il y a des dragons parce que il y avait des êtres, des grands reptiles qui vivaient et qui cohabitaient à l'époque aussi de nos ancêtres lointains, qui ressemblaient, qui étaient des très très grands êtres. Et ça existe encore, il y a encore des grands... Autour du Gabon, il y a encore des très très grands reptiles un peu mystérieux qui se rencontrent rarement, mais qui vivent dans des cavernes. Il y a aussi les dragons de Komodo. Il y a des traces encore aujourd'hui de grands êtres. Mais ensuite, il y a eu ces histoires qui représentaient, cette dimension mythique, parce qu'au début c'était des serpents. Mais en fait, petit à petit, c'est devenu beaucoup des mélanges d'êtres. Il y a beaucoup de dragons qui sont une compilation de différents animaux. On dit qu'ils ont des pattes de tigre, des serres d'aigle, des oreilles de lapin, une tête de chameau. Ils sont décrits comme ça, les dragons. Et parce que aussi... ça se peut qu'on utilise ces comparaisons-là souvent pour décrire des animaux qu'on connaît pas, qu'on n'a jamais vus. Et, ensuite, il y a quand même deux grandes différences, deux grandes aires de diffusion qui correspondent un peu plus au niveau géographique à, du coup, l'Afrique, l'Asie de l'Est, l'Australie, l'Asie du Nord, l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud qui ont... donc ça, c'est une première étape de diffusion qui racontait des dragons qui étaient des puissances en lien avec des puissances naturelles, beaucoup en lien avec l'eau, en lien avec... donc il y avait le pouvoir soit de répondre aux besoins de faire tomber la pluie ou de faire des inondations... qui correspondait à des puissances des éléments, quoi. Et qui vivaient dans les nuages. Les dragons, c'est souvent des êtres finalement pas tant de feu, mais qui vivent dans les nuages, qui sont des êtres aquatiques, et qui étaient honorés, qui étaient plutôt bienveillants. Par exemple, en Asie, il y a très très peu de dragons qui pètent des plombs et qui sont méchants, quoi. Plutôt, c'est des gardiens plutôt sages qui représentent l'équilibre des pouvoirs. C'était beaucoup plus tard, ça a été un symbole des empereurs des dynasties. avec une dimension voilà, de sagesse, d'équilibre et de puissance. Dans le taoïsme, ils étaient reliés à... Donc il y a eu des liens ensuite entre le taoïsme et le bouddhisme, mais c'était aussi relié à des grandes connaissances de ce qui nous dépasse. Et voilà, le serpent à plumes en Amérique du Sud et en Europe plutôt. Donc ça, c'est la deuxième ère de diffusion avec le Moyen-Âge qui représente plutôt le dragon comme la représentation du paganisme à combattre dans un premier temps. Et puis ensuite, ça devient... plus au moment de la Renaissance, justement, les croyances à combattre. Mais, donc ça a été dans les restes des peintures, et donc ça a été représenté souvent comme ça, comme des pélos qui combattent le dragon. Et donc, il y a le fameux mythe du chevalier qui combat le dragon pour sauver la princesse. Et ça, il semblerait que c'est, en fait, une petite dérive archétypale de... combattre ces grandes peurs, quoi. Il y a l'amour derrière et il y a des grandes peurs intérieures, ce qui nous fait le plus peur ou ce qui nous dépasse, ce qui a l'air d'être du chaos. Enfin, ça porte quelque chose de cet ordre-là, les dragons qui sont des gardiens de seuil et qui, peut-être on est appelé à aller les rencontrer, et ça a l'air de faire archi peur, mais en fait, derrière, il y a une idée de transformation derrière, et de transformation, d'aller regarder ses peurs. Il y a quand même cette dimension-là, vachement, dans les dragons, et dans comment les histoires, elles ont été transmises autour des dragons.
Moi, je me demandais justement par rapport à ce truc de mythe. Alors, tu dis archétypal, mais est-ce que c'est pas juste le patriarcat qui est venu foutre le zbeul dans le truc en se disant bon, bah voilà, le chevalier qui va sauver la princesse et. Enfin, tu vois, juste un truc de réappropriation patriarcale, quoi.
Oui. Ouais, carrément. C'était ça que je voulais dire, je pense.
Ouais.
Ça m'a fait penser à une petite ref, hein, encore, c'est la princesse et le dragon.
Moi aussi, j'y ai pensé en même temps.
Chez Talent Haut, du coup, maison d'édition féministe pour la jeunesse. Et voilà, c'est pas du tout dans les stéréotypes, justement, c'est ça qu'on aime.
Ouais, parce que c'est elle qui combat le dragon. Bon, voilà, bref, c'est féministe, donc elle a pas besoin d'un chevalier, quoi. Mais non, faut pas le dire, ça, c'est spoil.
Ouais, moi j'ai cherché aussi, on mettra en ref, il y a des histoires de fantasy où du coup c'est des dragonnières qui apprennent à dompter les dragons, parce qu'en fait souvent les dragons c'est aussi des compagnons. Il y a quand même aussi plein d'histoires où les dragons, c'est des compagnons, c'est des gardiens qui ont leur propre volonté et leur propre puissance, mais du coup, ça s'apprivoise. Enfin, ces forces-là peuvent s'apprivoiser. Et donc, il y a quelques histoires de fantasy que j'ai trouvées un peu cool, que j'ai pas notées là, du coup, que j'ai pas gardées dans mes petites notes, mais parce que j'en ai pas de notes, mais...
En impro.
Mais du coup, pourquoi est-ce qu'il crache du feu? Enfin, pourquoi est-ce qu'il y a ce truc avec le feu? Du coup, le dragon, ça pourrait être juste ce gros reptile, tu vois, un peu mythifié ou je sais pas quoi, comme tu disais. Mais pourquoi il y a le rapport au feu, du coup?
Ben ça, c'est arrivé précisément plutôt au Moyen-Âge, dans ce truc... en tout cas, les représentations du feu, du dragon qui crache du feu... C'est arrivé au Moyen-Âge avec toute cette représentation de les pratiques païennes, c'est le chaos, et il faut civiliser, en lien avec la religion, en fait. Enfin, c'était la représentation, le revers de la religion, de la bonne religion, c'était le feu, représenté par le dragon qui crache du feu et qui détruit la ville. Ou les villages, et qui étaient les pratiques païennes, mais je pense pas que en termes de croyance, c'était aussi relié à des cultures populaires autonomes qui n'étaient pas administrées par un pouvoir central, quoi. Et donc ça, c'est arrivé à ce moment-là, l'image du dragon cracheur de feu. C'est pas du tout vieux, et c'est pas l'image la plus récente du dragon du tout. Mmh. En fait, il y a eu des dragons. Il y a un dragon du Rhône, une dragonne qui vit dans le Rhône. Il y a des légendes plutôt avec des dragons qui vivent dans le Rhône et qui sont complètement des êtres aquatiques.
Mmh. Oui, bah, du coup, ça fait un peu le lien avec des choses que j'ai cherchées sur la symbolique. Où, en fait, le feu, il est toujours quand même lié à la, soit au sacrifice et à la purification. Donc, par exemple, quand il y a la mort, ben, on l'a vu, hein, la crémation, l'incinération, qui annonce la naissance d'un être meilleur, par exemple. C'est un rite de passage, comme tu disais, souvent, c'est ce truc-là, quoi. C'est très symbolique. Ou alors, c'est le feu, c'est aussi la force, l'énergie. C'est pour ça qu'à chaque fois, la couleur associée, c'est le rouge. C'est une énergie explosive, mais aussi positive, quoi. Y a aussi le feu qui est l'esprit, le principe divin, du coup l'amour universel. Ou alors, par exemple, dans le bouddhisme, le feu intérieur, c'est une énergie capable de brûler, de détruire l'enveloppe extérieure. Et du coup, ça rappelle aussi le kundalini du yoga, donc le serpent de feu, là, dont tu parlais. Et du coup, j'ai l'impression que le feu, il est toujours dans une symbolique très... mais même dans le christianisme, en fait. Hein, dans la Bible, dans la théologie, le feu, c'est largement associé au jugement ou à la purification, mais du coup, à la présence de Dieu. Du coup, ça me fait penser un peu à ce que tu disais sur la question des peurs. Est-ce que ce serait pas un truc supérieur, quoi, enfin, qui... plus grand que nous aussi, quoi. Mmh. Même si là, tu parlais des peurs plutôt intérieures, mais moi, j'entends un truc aussi plus large, quoi. Mmh.
Mais ouais, enfin, il y a ce truc de l'eau et de feu dans les différents mythes qu'il y a autour du feu. Ça ressemble aussi à des moments à l'eau, à la question ou du déluge, ou de soit tout crame, soit c'est le déluge. Genre, finalement, les humains ont fait de la merde. Et.
C'est la punition divine.
Ouais, mais il n'y a pas que dans les religions monothéistes qu'il y a ces récits-là. Ça existe dans d'autres. Dans d'autres récits, dans d'autres croyances, dans d'autres cultures aussi, polythéistes, avec plusieurs dieux et déesses, ce truc de... ouais, voilà, même les dieux et les déesses ont fait de la merde et donc ça crame. Enfin, pareil, du coup, j'ai entendu un peu plusieurs histoires qui racontaient ça. Alors moi, je me dis, peut-être il y a aussi ce truc du soleil, enfin, le rapport au soleil, à l'alternance jour-nuit... Et du coup, à en avoir besoin en même temps que à le craindre.
Oui, parce que c'est forcément lié à la lumière et au soleil, le feu. Enfin, du coup, même dans la symbolique, quoi, c'est une force à la fois naturelle, mais à la fois surnaturelle, quoi.
Et qui s'apprivoise. Enfin, hier sur France Culture, sur CQFD, ils ont fait une émission sur le feu, l'histoire de l'apprivoisement du feu. Silex. Education, elle s'appelle. Et je me suis dit, ah, trippant qu'il parle de ça alors qu'on enregistre aujourd'hui. Et donc, ça raconte plutôt vraiment précisément les traces de l'apprivoisement des humains et des humaines par le feu qui est pareil, qui date de millions d'années, probablement. Mais ouais, en tout cas, je sais pas, les figures mythiques autour. Ça m'a donné envie d'écrire des histoires. Plutôt, c'était ça, en fait, mon idée. J'avais eu envie d'écrire une histoire plutôt que de raconter des éléments et de donner des éléments historiques. Je me suis dit, ah, je vais raconter une histoire avec des dragons. Bah, finalement, j'ai pas pu. Mais ça a donné envie de continuer d'inventer des mythes et de s'inventer, enfin, de puiser dans les mémoires collectives et de continuer de se raconter des histoires.
Ouais. Parce que les mythes, ils ont aussi une fonction pour nous, quoi. Enfin...
Ouais, dans un des trucs que j'ai écouté, ça disait, les mythes, c'est comme le système immunitaire du corps, c'est pour préparer. Comme le système immunitaire qui est pour préparer aux différentes pathogènes qu'on va avoir à rencontrer, que les mythes, c'est aussi c'est ça, mais dans le psychisme. C'est pour préparer, pour nous préparer aux douleurs qu'on va devoir traverser dans la vie.
Ben, ça me fait faire le lien avec aussi l'horoscope.
Et oui, parce que le dragon est un signe dans l'horoscope chinois.
Mmh. Ouais. Et puis aussi que c'est aussi des mythes dont on a besoin pour continuer à vivre. Des fois, de... il paraît que c'est un des trucs les plus lus. On a un camarade ici qui fait de l'horoscope queer et du tirage de tarot. Et il disait, en faisant un peu toutes les boutiques, tous les cafés là dans le Royan, en disant tout le monde rentre dans le café, ouvre le Dauphiné libéré, Daubé pour les intimes. Et lit l'horoscope, le referme. Enfin, il y a un truc avec l'horoscope, quoi. Mmh. Et du coup, on s'est dit quand même que, du coup, en astrologie, le feu, c'est l'élément qui gouverne 3 des 12 signes. Et que, quand même, ce serait dommage de ne pas donner l'horoscope 2026 pour cette année qui attend les 3 signes de feu. Alors, on aurait pu faire les 12 signes, mais on va faire les 3 signes de feu qui trépignent peut-être. Le bélier, le lion et le sagittaire. Et ben, peut-être on commence par le bélier.
Allez, alors horoscope 2026 du bélier, cette année est signe de changement profond et durable. Du côté des planètes, Saturne s'installe chez vous pour 2 ans et Neptune, elle, plus de 10 années dans votre signe. Le résultat, de gré ou de force, vous êtes amené à évoluer, à prendre des décisions. Et puisque choisir, c'est renoncer, il va falloir faire quelques concessions cette année. Vous êtes amené à vous responsabiliser, si si. Et une chose est claire, jusque juin au moins, l'année 2026 sera celle du changement, cher Bélier. Que l'on parle d'un déménagement ou d'une nouvelle carrière, vous faites en sorte de choisir, de ne pas subir. Mais il faudra apprendre à faire avec le temps, accepter les moments de solitude pour vous ressourcer. Soyez cependant rassurés, vous serez fort inspirés pour trouver le meilleur chemin à suivre. À partir de juin, c'est plus facile. Vos vies affectives et créatrices sont super valorisées. Quel que soit votre objectif, finalement, vous gagnez votre liberté intérieure et elle se verra à l'extérieur.
Oh ouais, les béliers. Et pour les lions ou les lionnes, 2026, c'est une année de transformation progressive pour vous, marquée par des défis initiaux et de belles récompenses à partir de l'été. Va falloir attendre un peu. Elle demande discipline, maîtrise émotionnelle et sens de la stratégie. Il y a donc 3 temps forts. Le printemps, c'est la phase de structuration, rigueur et mise en place des bases. L'été, c'est l'énergie, visibilité, opportunité et rayonnement. Et l'automne, ce sera consacré à la réflexion, l'ajustement et l'équilibre. On vous invite donc à 2 points de vigilance, la gestion de l'argent, et ouais, les petits lions, les petites lionnes, et le contrôle des émotions. Et puis du coup, un levier aussi qui pourra vous aider cette année, c'est oser des prises de risques calculées. Le lion... ou la lionne, récoltera en deuxième partie d'année ce qu'il aura semé avec discipline. L'équilibre entre ambition, réalisme et maîtrise personnelle est la clé du succès en 2026.
Et les sagittaires, alors, l'année du renouveau et de l'audace. 2026 s'annonce comme une année vibrante, expansive et transformatrice pour le sagittaire. Ouh. Placé sous l'influence de Vénus, Jupiter et Saturne, elle mêle passion, engagement durable et stabilité matérielle. Avec un ascendant lunaire bélier, l'action et le courage sont au cœur de votre évolution. Grande tendance de l'année, réinvention personnelle. Vénus vous pousse à soigner votre image, votre bien-être et votre estime personnelle. Soif de liberté. Ah oui, il y a plusieurs notions. Rejet de la routine, besoin d'aventure, nouveautés stimulantes et rencontres imprévues. Vous serez avec l'énergie du feu. Ce sera la combinaison Sagittaire-Bélier. Ah oui, donc c'est ça. Pardon, désolé, je décrypte. Du dynamisme, de l'audace et un esprit pionnier. Pour les périodes favorables, ce sera en été et en automne. Donc un peu de patience. 2026 est une année d'expansion, donc, de passion et de réalisation concrète. Les Sagittaires avancent avec confiance, brisent leurs limites et donnent des formes à leurs rêves, portés par une énergie audacieuse et créative.
Voilà, peut-être que les 9 autres signes sont un peu frustrés, mais voilà, on vous invite à aller... écoutez votre horoscope et vous pouvez d'ailleurs aller voir le tarot des Quiros qui fait des vidéos tous les mois avec tous les signes. Je crois qu'on arrive à la fin de cette émission de l'Éclat des Noctules du mois de février 2026 consacrée au feu. Vous pourrez la retrouver sur les ondes 93 FM, sur le site internet radioroyant.fr, sur radiorageuse.net aussi et sur les plateformes, figurez-vous, de podcast, Deezer, Podcast Addict, tout ça, Apple Podcast. Et on a aussi sélectionné un coup de cœur pour cette émission. Le coup de cœur, il passe sur les ondes de Radio Royan tout le mois de février et ce sera. Où sont mes petites notes?
Vous pourrez retrouver ce coup de cœur qu'on sélectionne sur la plateforme de Radio Rageuse.
Ouais, c'est une émission transpédéguine féministe qui s'appelle Le Feu, la Rage, l'Orage, qui est sur Radio Piqué. Et c'est l'épisode numéro 15 consacré à un petit décryptage autour de ces trois notions, le feu, la rage et l'orage, une émission qui date de 2020.
On vous le mettra en lien en dessous de l'émission avec différentes ressources à propos de tout ce qu'on a parlé et puis les ZIC.
Voilà, et moi je voulais redonner l'adresse mail pour nous écrire, noctule avec un S, @mailou.org. Et ça peut être l'occasion soit de partager vos rêves sur le thème du feu, soit de dire aussi ce qui vous réchauffe et nourrit votre feu intérieur. Dites-le en poésie, dites-le comme vous êtes, et à bientôt, merci.
Et il y a deux choses pour se quitter. Il y a encore un bout de micro-trottoir et un dernier son, une chanson sur laquelle on se quitte.
Des laves et des volcans, un petit morceau d'un album qui s'appelle Monstre que j'ai enregistré il y a longtemps. Franchement, il y a pas mal d'années, je ne sais plus, ça commence à faire un truc comme 7 ans. Et du coup, c'est des vieux textes aussi.
Mais ça fait trop plaisir de partager un de tes sons, Chico.
Et c'est drôle parce que, en fait, pour la petite anecdote, à l'époque, avec Audrey, on s'est déjà croisés, une fois. Et on avait partagé un petit bout de scène ouverte sur un événement, une tournée qu'on avait fait avec les troupes de Fallop. Et moi, je l'avais recontacté parce que je cherchais des extraits audio sur la violence. Et donc, j'avais trouvé un bout de podcast où Audrey parlait. Donc, je l'avais recontacté pour lui dire « Salut, on s'est déjà croisés, nanana. Est-ce que t'es OK que j'utilise ce bout-là » Et donc, il se trouve que c'était sur ce morceau.
Qu'il y a un bout d'Audrey.
Ouais.
Voilà.
On est là. Toutes nos productions sont dans cette émission. Et merci à Gaëlle pour la technique, assistée de Jo, qui faisait sa première.
Ouais.
Et du coup, voilà, on va vers l'autonomie avec les Noctules. Bientôt, on pourra vous enregistrer des émissions la nuit, tellement on a besoin que de nous. Voilà. Et ben, au mois prochain.
Bon mois de février.
Bye bye.
Ouais, le hangar m'a fait penser quand on a fait l'enterrement de la Mitoune, on a chanté On se les pèle trop.
Oui.
Tous ensemble,
ouais.
Sur des canapés. Et en fait, ça réchauffait d'être ensemble.
Ça, c'est vrai.
Et d'être collé comme ça, bien emmitouflé. Et le chant, ça réchauffe aussi. Le chant, ça donne du. Le chant ensemble, en plus. En polyphonie.
Oui, même si c'est serré à plusieurs aussi, effectivement, ça réchauffe.
Le cœur, ça réchauffe.
Oui.
Moi, je me faisais la réflexion, là, pendant le week-end de danse, que à chaque fois que j'allais au milieu, j'avais l'impression qu'il faisait tout le temps plus chaud. Je me prenais une bouffée de chaleur à chaque fois que j'allais dans l'espace, même si je bougeais pas.
Ben, c'est vrai, d'ailleurs, presque tout le monde enlevait des couches avant même... de couches de vêtements avant même de danser, en fait, il y avait déjà le truc de ok, là j'y vais,
je vais avoir chaud, quoi.
Ouais.
C'est d'être sous les regards, peut-être
sous les feux des projecteurs.
On dit ça aussi, les feux des projecteurs.
Ouais, c'est ça, le regard réchauffe,
peut-être.
Bah, ça fait monter le stress aussi, un peu, je pense.
Ouais, c'est vrai, l'adrénaline de la création.
La sauter dans le vide.
Ah non, on se les pèle trop dans la tête.
C'est quoi la chanson?
C'est une.
Comment ça s'appelle?
C'est un. En fait, c'est comme un chorus. Enfin, en fait, c'est une musique classique.
De Purcell, je crois.
Ouais, de Purcell, très connue.
que un collectif de personnes, ils sont trois, je crois, ont repris en changeant les paroles et en faisant vraiment des paroles très primaires. Ouais.
Genre, c'est quoi la chanson?
On sleep trop, on sleep trop, on sleep trop, on sleep trop, mais là, on sleep trop, on sleep trop, Trop sa mère.
Attends, on n'a pas la version.
Ah, pépite. Vous êtes d'accord que je le garde?
Bah, écoute d'abord.
Demande
à la Mitoune, elle l'a enregistré quand on l'a chanté à Oregon.
Non, mais là, c'est la meilleure version.
Ouais, vas-y, moi, je m'en fous. Tu peux la garder. Ah, peut-être. Le rire réchauffe aussi.
Ah oui. Faire la liste des trucs qui réchauffent, ça réchauffe.
C'est vrai qu'on a un coup de chaud là.
Ouais, d'en parler là.
On était lavé des volcans. On était lavé des volcans.
Et au lieu d'être dans cette hypocrisie de la violence c'est mal, tout ça, faut être douce, bah non j'en ai, qu'est-ce que j'en fais de cette violence? Bah justement je la transforme, et je la partage et je la confronte à d'autres.
La tension monte, on s'y attend depuis longtemps, non. La tente sillonne, moi je m'attelle au puissant fond. Trop d'ambition ni d'amitié, le temps contre temps c'est limité. L'abîme est là, le tout c'est de le traverser. J'ai des billes, je le sais pas, ça m'évite d'être normal. Aux lisières j'existe, grâce à ce que je contrôle pas. Telle une rivière, je lessive les fascismes, banal, trop en calme et alerte, y'a bien que l'amour qui m'a. J'ai pas peur de l'avenir, je suis habitué au drame. J'ai pas peur de la prison, j'ai peur de la mort des fois. J'ai peur de l'abandon, de ce qui nous rend stupides. Je vis pour vivre libre, des souffrances aux joies. Parce que je le kiffe des sensations, de l'ivresse des émotions. Je dépense de l'énergie à dévier des vieux schémas. Je vis avec mes démons, je m'en cache pas, je l'évite. Si j'ai pas de place en reprise, si tu me fais la passe. Je suis éprise sans mépris, j'assume d'être fragile. J'ai le courage de dire et d'en payer le prix. J'afflue vers la guérilla, j'aime le conflit. S'il y a moyen de grandir et d'être moins con que les flics, c'est pour la rime, les frangines, nos conseries, des fondis. C'est fuite en s'efforçant de pas baliser de leur propre baliverne. Petit topo pour ceux qui salivent, on n'est jamais sali, on est des lavés des volcans. À nos rythmes, à nos choix pour entrer en éruption. À nos corps sans vouloir, toujours en révolution. À nos rires, allez quoi? On est que des rêves en fusion. Quoi encore trop des mois, non, t'entends cette une irruption. À nos rythmes, à nos choix pour entrer en éruption. À nos corps sans vouloir, toujours en révolution. À nos rires, allez quoi? On est que des rêves en fusion. Quoi encore trop des mois, non, t'entends cette une irruption. Ça fait bling bling, c'est pas le troupeau, c'est de la bilbile sur vos diplômes. Si débile de faux poteaux, reste à ta place. Viens pas test ma dingue dinguerie. Tiens-toi prêt pour le tsunami. J'ai brûlé avec le phénix, il m'a transmis sa magie. Tu pensais que j'allais rester à l'en m'occupant de nous mettre bien. Mais tout ce que tu fuis l'air de rien, c'est le peu de principe qui me tient. L'amitié c'est ma base, je sais pas pour la tienne. Je suis pas kamikaze, je suis une tisseuse de liens. Pour entrer en éruption, à nos corps sans vouloir, toujours en révolution. À nos rires, allez quoi? On est que des rêves en fusion. Quoi encore trop des mois, non, t'entends cette une irruption.
En tant que femme, je ne suis pas là pour marcher sur les plates-bandes des hommes. J'en ai strictement rien à faire. C'est-à-dire, quand je fais un choix, ce n'est pas parce que je veux mesurer un homme. C'est juste que je veux satisfaire une envie. Quelque chose, moi, qui me fait vibrer, qui me fait vivre.